Donc aujourd'hui, le titre du message que j'ai, le titre que j'ai donné à ce message, c'est les richesses de Christ promises aux non-juifs ou aux païens. Non-juifs, pas la même chose. Et c'est inspiré du verset 8 du texte de Éphésiens 3. Donc si vous avez oublié, au verset 8, Elisha, tu as le. Ouais. Donc au verset 8. L'apôtre Paul dit « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Donc dans tout ce que l'apôtre Paul avait dit avant, enfin dans ce qu'on a vu la semaine passée, il expliquait ce que Dieu a fait pour les non-juifs. Donc, il nous rappelait que nous étions exclus de la communion avec Dieu. Il y avait un mur qui séparait le temple des non-juifs, qui symbolisait le mur de nos péchés infranchissables. Et il dit, maintenant nous sommes rapprochés. Non seulement nous pouvons entrer dans le temple de Dieu, mais nous sommes le temple de Dieu. Nous avons une communion la plus proche possible avec Dieu, si nous sommes en Jésus. Et donc, quand il commence ce texte, il dit, à cause de cela, il va faire une prière. Mais avant sa prière, il ouvre une longue parenthèse qui dure 13 versets. Donc, c'est ça qu'on va voir. Pour réfléchir sur le texte, j'allais vous dire... Imaginez-vous, enfin, d'abord, ne répondez pas, mais dans votre esprit, qui est l'homme le plus riche qui ait jamais vécu sur la terre? Pensez, l'homme le plus riche selon vous. Donc peut-être vous avez pensé à Bill Gates, peut-être Elon Musk, peut-être Crésus, je ne sais pas. Des fois dans la Bible, il y a des gens comme Job. Job était très riche. Si on convertissait sa richesse aujourd'hui, il serait peut-être multimillionnaire. J'ai regardé pour m'amuser, je ne sais pas si ça vous intéresse. Mais une vache coûte 2000 euros à peu près. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Et Job en avait des milliers. Il avait des milliers de chameaux. Un chameau peut coûter 10 000 euros. Si quelqu'un a un projet, c'est un chameau. Et donc, comme Job avait des milliers, ça fait plusieurs millions aujourd'hui. Si on prend sur 4 000 ans l'inflation, Job était très riche. Mais quand on pense aux hommes les plus riches qu'on a vécu, on ne pense pas à lui, on pense peut-être à tous ces gens. Et j'ai vu qu'il y a des milliardaires qui achètent des îles. Il est seul sur son île. À ses voitures, ses hélicoptères et tout ça, si vous retrouvez la civilisation. Donc maintenant, imaginez-vous quand on vous dit, vous pouvez profiter de toute la richesse d'un de ces hommes-là, peut-être qu'il y a une île privée, pendant un an. Pendant un an, vous avez accès à toute sa richesse, c'est à vous en fait. Mais au bout de l'année, vous rentrez chez vous. Donc vous aurez accès au meilleur chauffeur, à son pilote d'hélicoptère, vous aurez accès à toutes ces facilités, une belle villa, peut-être piscine, peut-être vue sur la mer, au meilleur chef étoilé pour vos trois repas. Je ne sais pas si j'accepterai, mais les chefs étoilés, peut-être je serais tenté de dire, allez. Mais au bout d'un an, vous retrouvez votre vie normale. Donc vous ne pouvez pas ramener l'argent que vous avez pris là-bas. Si on y réfléchit, toutes les richesses de ce monde sont comme ça. Nous qui sommes en France, peu importe notre niveau de revenu, on profite un peu des richesses de la France. On a de l'eau potable, Wi-Fi illimité, l'électricité. Ce sont des richesses auxquelles vous profitez. Il y a des milliards d'êtres humains qui ne profitent pas d'autant de richesses qu'on a en France. Mais toutes ces richesses sont un peu comme vivre, avoir des milliards pendant un an. À un moment, on va les quitter. Pendant un an, 20 ans, 50 ans, 100 ans, je vous souhaite. Un jour, toutes les richesses terrestres, on va les quitter. Ou elles vont nous quitter. On voit l'histoire de Job qui a tout perdu un moment. Il y a un passage dans la Bible où Paul dit à Timothée, nous n'avons rien à porter sur terre. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. C'est évident parce qu'on enterre quelqu'un, il n'y a pas ses voitures, il n'y a pas ses maisons. C'est évident que quand on part de la terre, on laisse tout. Mais le texte qu'on a devant nous, nous parle des seules richesses qu'on ne va jamais quitter. On est Jésus-Christ. Au verset 8, à moi qui suis le moindre des saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Certaines versions disent les richesses infinies. Quand je vous ai dit qui est l'homme le plus riche qui a jamais vécu sur terre, je ne sais pas à qui vous avez pensé. L'homme le plus riche qui a vécu sur terre, c'est Jésus. Et puis, comme on le sait, il dit à Pilate, je suis roi. Et mon royaume n'est pas de ce monde. Dieu n'avait pas ses richesses dans ce monde, mais il est infiniment riche, de manière incompréhensible. Et l'histoire de l'évangile, c'est que Jésus est tellement bon, tellement généreux, et il nous a tellement aimés qu'il est venu sur terre pour nous faire bénéficier de ses richesses dans son royaume. Il s'est fait pour quelques temps, que nous soyons riches pour l'éternité dans le royaume des cieux. L'apôtre Paul disait aux Philippiens, j'ai hâte de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de loin meilleur. Vous imaginez les disciples, ils ont vu Jésus monter au ciel, ils l'ont vu. Donc c'est comme si pour eux, quelqu'un qui est aux États-Unis ou quelqu'un qui est, je sais pas, au Cameroun, pour eux c'était pareil, Jésus au ciel. Il est juste présent, vraiment, dans son corps, mais juste dans un autre espace. Le royaume des cieux est réel. Et Paul disait, moi j'ai hâte d'y aller. C'est comme s'il disait, j'ai hâte de rentrer à Noisy-le-Grand. Le ciel est réel. Et dans cet endroit-là, c'est infiniment meilleur. Donc dans cette lettre, l'apôtre Paul a annoncé aux païens, maintenant vous avez part à l'héritage de Christ. Et il va prier, une de ses prières, c'est pour qu'on connaisse, pour qu'on comprenne. Parce que c'est vrai que c'est réel, mais c'est des réalités spirituelles. Et nous sommes dans les corps. Donc, et avancé, il ouvre cette parenthèse, donc je me propose de regarder. Donc, le texte en trois parties. Il montre d'abord que Dieu envoie des messagers pour nous faire connaître les richesses de Christ. Pour le point 2, je vous spoil, la richesse ultime que Christ nous donne, c'est Dieu lui-même. Puis, dans le troisième point, on verra c'est la prière un modèle de prière qui nous donne à la lumière de cette richesse. Donc, au verset 1, il dit à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens. À cause de cela, donc, à cause de tout ce qu'on a vu, nous sommes le temple de Dieu. Nous étions infiniment séparés de Dieu, maintenant nous sommes infiniment proches. Nous sommes dans la présence même de Dieu. Dieu est présent dans son église de manière spirituelle. Et puis un jour, ce sera plus concret. Donc, avant de leur dire l'orientation de sa prière, il rappelle qu'il est prisonnier. Paul était littéralement en prison au moment où il écrit Éphésiens, mais il se décrit comme prisonnier de Christ. Peut-être pour dire qu'il est prisonnier à cause de Christ, parce qu'il prêchait l'évangile, qu'il s'est fait mettre en prison. Ça, c'est vrai. Et il dit aussi, dans un sens spirituel, il appartient exclusivement à Christ. Et on verra plus loin qu'il regarde sa condition de prisonnier comme une opportunité de servir le Seigneur. Comme Paul, nous appartenons à Jésus-Christ en tant qu'individu et en tant qu'église. Et tout ce qui nous arrive est sous le contrôle de sa providence. Tout ce qui nous arrive est sous le contrôle de la volonté de Jésus, si nous sommes à lui. Il peut nous faire passer parfois par des circonstances difficiles, comme l'apôtre Paul dans la prison, mais c'est toujours sous son contrôle. Et là, l'apôtre Paul dit, moi, prisonnier de Christ. Et il le voit comme une opportunité, comme on le voit. Après, d'ici, du moins, vous avez la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire. Donc, il leur dit, Dieu m'a chargé de vous annoncer ces richesses-là. C'est comme la parabole, Jésus disait, le royaume de Dieu est comme un homme qui fait une des noces pour son fils. Il envoie des gens aller chercher tout le monde dans la rue. C'est incroyable. Il fait une grosse fête. Il dit, venez, venez, venez. Et l'apôtre Paul fait partie de ces gens, le premier rang de ceux qui ont appelé tous les païens à venir profiter de la fête, de la célébration. Et ça m'a aussi fait penser, récemment je voyais la vidéo d'une dame qui était en galère, elle était complètement, elle avait des problèmes financiers, des difficultés financières, et puis elle a pris tous les bijoux de famille qu'il y avait chez elle. Elle s'est dit, bon, tant qu'à faire, je ne vais pas mourir de faim alors que j'ai des bijoux de famille. Et qu'elle allait voir un joaillier, il a examiné, il a regardé la femme, il a dit, mais est-ce que vous savez ce que vous avez? Et ça valait des dizaines de milliers d'euros ce qu'elle avait. Mais elle n'était pas experte. Et l'apôtre Paul est un peu comme ce joaillier qui dit, vous avez un bijou dont vous ne connaissez pas la valeur. Il dit, si vous connaissez la dispensation de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai connaissance de ce mystère. Il dit, Dieu m'a révélé la profondeur de la bénédiction, comme Gaël disait l'autre jour, de l'infinie bénédiction que vous avez reçue en Christ. Et puis il dit la révélation, souvent la révélation c'est ce que Dieu connaît, mais qui fait connaître aux hommes à un moment donné, il fait une révélation. Gaël parle de l'Apocalypse, il y a des choses cachées, mais Dieu nous révèle. J'ai en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence du verset 4. L'intelligence que j'ai du mystère de Christ n'a pas été manifestée au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par les saints apôtres et prophètes de Christ. Donc, est-ce que Dieu lui a révélé le mystère de Christ? Souvent, quand on dit mystère, c'est pas pour dire que c'est mystérieux dans le sens caché, mais c'est quelque chose qui n'était pas clair à un moment donné et que Dieu rend de plus en plus clair, que Dieu révèle petit à petit. Par exemple, dans l'Ancien Testament, ils attendaient déjà un Messie. Dans Genèse, dès le péché originel, en Genèse 3, Dieu annonce quelqu'un qui va venir vaincre le serpent. Donc, tous ceux qui ont vécu pendant cette période-là se disaient, qui va venir vaincre? Qui va venir vaincre? Donc, il y avait un mystère. Comment il sera? D'où est-ce qu'il va venir? Bien à Abraham, Dieu lui promet, toutes les générations seront bénies en toi. Imaginez ceux qui ont vécu toute cette période-là, des centaines d'années, ils disaient, mais comment toute la terre va être bénie en Abraham? Qui va venir? Qui va venir? Qu'est-ce qui va se passer? Bien, Moïse, quand il parlait au peuple, il dit, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Prophète dans la Bible, c'est quelqu'un qui dit la parole de Dieu. Donc, un prophète qui va dire, qui va vous révéler toute la parole de Dieu dans sa plénitude. Donc, il y avait une attente de quelqu'un, d'un Messie, comme on l'appelle dans l'Ancien Testament. Mais c'était encore caché. Dieu n'avait pas encore pleinement révélé. Et puis, il y a d'autres promesses comme ça, d'un roi qui va régner, de l'agneau qui va expier les péchés. On comprenait, mais pas complètement. Donc, il y avait quelqu'un que Dieu avait mandaté pour accomplir ça. L'apôtre Paul dit, ce mystère, maintenant, il n'avait pas été manifesté aux hommes des autres générations, comme il a été révélé maintenant aux saints apôtres de Christ. Il est en train de nous dire aux païens d'Éphèse et à nous, ce que vous avez, beaucoup d'hommes ont vécu sur la terre sans jamais connaître pleinement le Messie, Jésus. Après une petite parenthèse, il dit aux saints apôtres et prophètes. Souvent, apôtre, ça veut dire de manière générale, vous voyez. Mais les apôtres de Christ aussi, les douze et Paul, ne sont pas illimités. Tout le monde n'est pas apôtre, comme tout le monde n'est pas prophète. Ce que ça nous rappelle, c'est que quand on lit les paroles de l'apôtre Paul ou de Pierre, c'est comme si on lisait les paroles d'Ésaïe. On lit vraiment la parole de Dieu. Quand Ésaïe parlait, il disait « Ainsi parle l'Éternel », c'est la même valeur que les paroles de l'apôtre Paul ont. C'est la parole de Dieu. Parce que Dieu lui a donné une révélation particulière. Qui n'a pas été donné à tous les hommes avant. Et puis les preuves, c'était les miracles, etc., les résurrections. Donc tous ceux qui restaient là ne pouvaient pas dire que cet homme, il n'y a pas la main de Dieu sur lui. Et puis, souvent, on entend des nouveaux apôtres en 2025. Je me permets de dire que ça ne peut pas être possible. Parce que dans Éphésiens 2, verset 20, on a vu la version baptisée, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Vous, c'est-à-dire le temple de Dieu. Quand on construit un temple, il y a une fondation. On peut aménager une maison, mais en général, la fondation, c'est une fois pour toutes. Et qu'est-ce que ça implique? C'est que dans toute notre foi, dans notre croyance, on revient toujours au fondement, à la fondation. Même vous, dans notre église, pour vérifier que ce que Gaël dit ou que je dis est vrai, on doit revenir à la fondation. Je vois Yann qui est dans sa Bible comme ça. On doit toujours revenir dans la fondation. On a été bâti sur le fondement, la fondation des apôtres et des prophètes. Et Jésus est là. Donc il développe plus loin au verset 6 le mystère. Le mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps, participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc j'ai été fait ministre selon le don de la grâce qui m'a été accordée. Le mystère de Christ, sur lequel Paul insiste, c'est que nous sommes des héritiers. Nous sommes cohéritiers avec Christ. Comme je disais, imaginez Jésus, l'homme le plus riche, qui dit « Maintenant, tout ce qui est à moi, je le partage avec vous. » Nous sommes des cohéritiers de Christ. Dans Ésaïe 49, verset 6, donc ça c'est les prophètes qui commençaient déjà à parler de ce mystère-là. Il dit, c'est peu que tu sois serviteur pour relever les tribus de Jacob. C'est peu que tu sois serviteur pour relever Israël. Et pour amener les restes d'Israël, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis, plus tard, Jésus dira dans Luc 12, verset 32, Ne crains pas, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Quand on vient à Christ, on devient héritier du royaume. On partage le royaume des cieux. Frères et sœurs, nous avons un héritage dans le ciel. C'est plus que toutes les richesses que la terre peut contenir. C'est plus que tout ce qu'on peut nous offrir. Le royaume de Dieu. Puis au verset 8, il dit: à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Pour reprendre l'exemple du joaillier, c'est comme Paul est comme cet homme qui a pris l'avance et qui connaît la valeur de ce joaillier. Il estime que pour lui c'est une grâce quand Dieu a pu le choisir, lui pour être le précurseur pour dire ces choses-là. Et il a eu pas une révélation spéciale. Donc Dieu lui a vraiment parlé comme il parlait au prophète. Peut-être par ses souffrances, peut-être par ses isolements, quelquefois dans des circonstances comme ça que Dieu parle aux hommes. En tout cas, on ne sait pas clairement, mais Dieu lui a révélé ce que de manière spéciale. Mais on voit la richesse ultime. Je pense que le royaume des cieux sera vraiment un espace physique. Où ce sera quelque part, je crois que c'est dans Hébreu, dit, on sera dans une ville que Dieu lui-même a construite. Ce ne sera pas Haussmann, ce ne sera pas Gaudi, je crois que Gaudi, celui qui a l'architecte de Barcelone, Dieu lui-même sera l'architecte. Vous voyez les belles architectures, des fois on passe dans Paris, ça coupe le souffle. Imaginez l'aide le plus intelligent du monde, Dieu lui-même qui va construire une ville. Et c'est ça notre vie. Mais, on parle de la chute du paradis. Verset 11. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, à qui nous avons par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu. Avec le paradis ne consiste pas avant tout dans des richesses physiques et visibles, même si je crois que ce sera vraiment ça. Le royaume de Dieu trouve sa beauté et sa gloire parce que dans le royaume de Dieu, il y a Dieu. Imaginez le pays le plus magnifique du monde que vous voulez. Si le dirigeant, c'est un homme corrompu, qui n'aime pas les gens, qui met des politiques discriminatoires, ça n'a même pas de suivre. Gaël parlait de la photo tout à l'heure. J'aime beaucoup au chapitre 4. Là, quand Jean voit la vision du ciel, on l'amène, on ouvre le ciel, il voit la première chose qu'il dit: je vis un grand trône. Et quelqu'un qui était assis. Côté l'attraction du paradis, du royaume des cieux, c'est qu'il y a le roi, Dieu lui-même, qui règne. On voit l'actualité, ce que les dirigeants du monde font, les guerres, les querelles. Imaginez le roi parfait, qui aime la justice, qui aime son peuple au point où il est prêt à mourir pour eux. Il ne les sacrifie pas en les envoyant à la guerre ou je ne sais pas quoi, mais il est prêt à donner sa vie pour eux. Il est généreux. Servant tout ça, le royaume de Dieu sera dans la présence de Dieu lui-même. Et dès aujourd'hui, on a déjà cette communion. On peut déjà avoir cette communion, mais elle sera perfectionnée, rendue palpable et pleine entière. Dans 1 Corinthiens 16, verset 28, l'apôtre Paul dit: lorsque toutes choses auront été soumises à l'homme, lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout dans tous. Je ne sais pas concrètement comment ça va se faire dans le royaume des cieux. Mais nous serons parfaitement remplis de Dieu. Parfaitement alignés avec sa volonté. Il y a une parole où Jésus dit: je fais toujours la volonté de mon Père. Vous avez déjà dit ça un jour? Imaginez être capable de dire: je fais tout le temps la volonté de Dieu. C'est ça que nous serons dans le paradis. Nous serons parfaitement remplis de Dieu. Il sera tout en nous. Mais déjà, sur cette terre, nous pouvons commencer à goûter aux prémices. Par le Saint-Esprit, nous pouvons prier Dieu, nous pouvons communier avec lui, nous pouvons nous réjouir de son pardon. Qui sera pleinement consommé quand le royaume de Dieu sera. Et donc, on arrive à la suite de sa phrase, enfin. À cause de cela, moi, Paul, au verset 13, Je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre cause. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui est en nous, qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Donc d'abord, Paul rappelle aux Éphésiens qu'il le connaissait personnellement. Donc, imaginez quelqu'un que vous connaissez ou que vous avez admiré, qui a été votre pasteur, qui se fait emprisonner. Il a dit, ne perdez pas courage à cause de mon emprisonnement. Mon emprisonnement, c'est pour votre gloire. À cause de ça, je prie pour vous. Ça nous rappelle l'importance de la prière. Parce que je suis emprisonné, je peux prier. Prier, c'est pas anodin. Et pourquoi il prie pour vous? Pourquoi c'est si important? Il dit, j'ai besoin de prier pour vous, pour que vous réalisez ce qui vous arrive, ce que vous avez vécu. Donc c'est des choses qui nous paraissent invraisemblables, mais on a besoin de la prière pour s'approprier ces vérités. Et je note quatre orientations dans cette prière. Tout d'abord, pour qu'on soit puissamment fortifié par l'Esprit dans notre homme intérieur. Comment nous pouvons saisir la valeur de notre héritage dans les cieux? Comment nous pouvons devenir comme ce joyau, ce joaillier expert qui comprend la valeur des bijoux? C'est l'Esprit Saint qui peut fortifier notre cœur, qui peut nous donner l'intelligence, la compréhension. Vous vous souvenez des disciples, quand Jésus est mort, ils ont tous fui. Ils ont vu Jésus ressuscité, ils l'ont vu monter au ciel. Ils étaient courageux, ils prêchaient, on les arrêtait. Ils étaient contents même d'aller en prison pour Jésus. Comment on peut avoir cette attitude-là? C'est parce qu'ils avaient compris quelque chose qu'ils n'avaient pas compris avant. Et pour nous qui n'avons pas vu Jésus de nos yeux, on peut être fortifiés par l'Esprit. On peut prier pour être des hommes conscients pleinement, qui réalisent pleinement que le royaume des cieux est proche de nous. Et nous y allons. Et puis, dit fortifié par l'Esprit dans l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est une expression que l'apôtre Paul utilise souvent, notamment dans Romains 7. Dit, mon homme intérieur aime la loi de Dieu. Dit, pour nous qui avons été sauvés, quand nous sommes régénérés par le Saint-Esprit, c'est vrai qu'on a encore des péchés, on a encore des réflexes, mais à l'intérieur de nous, nous sommes changés, à l'intérieur, nous aimons Dieu. Vous vous souvenez quand Jésus va dire à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Il vient de fuir, il vient d'être lâche. Mais Seigneur, tu sais que je t'aime. On a nos défauts, on a des fois nos propres, on ne peut pas dire qu'on fait toujours la volonté. Mais notre homme intérieur, pour ceux qui ont reçu Christ, non seulement il nous pardonne nos péchés, mais il nous change à l'intérieur. Il nous donne le Saint-Esprit. À l'intérieur, on aime vraiment Dieu. Et puis il dit, cet homme intérieur-là va être fortifié dans le vrai nous. Nous sommes une nouvelle création si nous sommes en Christ. Le vrai nous va être fortifié, prendre du muscle spirituel et réaliser pleinement ce qui nous est promis. Et la deuxième prière, c'est que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Nous aimons Christ, mais si on peut reconnaître qu'on ne lui donne pas toujours tout notre cœur. Et la prière de l'apôtre Paul, ce qui doit être notre prière, c'est que cet amour grandisse dans notre cœur. C'est que Jésus-Christ ait plus de place dans notre cœur qu'autre chose. Qu'il ait même la seule place. Chacun de nous peut sonder son cœur pour voir où vont nos affections. Mais veillez sur nos cœurs, priez que Jésus soit la place centrale de nos affections. Que toutes les autres choses soient assujetties. Puis, la troisième prière, c'est connaître l'amour de Christ. Donc, d'un côté, affermir notre amour pour Jésus et la prière l'autre face de la même pièce, connaître l'amour de Christ. Jésus ne nous a pas invités à partager son royaume, à partager ses richesses par devoir. Parce qu'il dit, bon, je suis quand même Dieu, il faut que je prouve que je suis Dieu. Il n'a pas fait par obligation, il n'y a rien au-dessus de Dieu. Il l'a fait par amour. Il l'a fait par amour. Et l'apôtre Paul dit, prie, prie, que vous compreniez à quel point vous êtes aimé de Jésus. On est en train de lire l'évangile de Matthieu avec les jeunes. Jessica, Elisha, on lit l'évangile de Matthieu en ce moment. Et dans l'évangile de Matthieu, on peut voir l'amour que Jésus avait pour les gens. Il s'arrêtait toujours sur ceux qui étaient malades, il s'arrêtait toujours sur ceux qui étaient lépreux. Ce n'était pas par obligation, c'est parce qu'il aimait. C'est parce que quand il voyait des gens dans la misère, ça le touche. Une des choses pour que nous réalisions ce que Dieu a fait pour nous, c'est pour prier, pour comprendre la profondeur. Enfin, il dit, je prie, le quatrième, c'est que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, c'est le projet qu'on a de Dieu. Il va le faire puissamment un jour par l'avènement de Jésus. Mais dès à présent, on doit être dans cette démarche. Le Seigneur, Jésus disait, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Donc, pour l'instant, nous sommes les temples où Dieu habite. Et on veut chaque jour prier pour que Dieu nous remplisse, que nous soyons complètement remplis de Dieu. Nous avons l'aide, bien sûr, de la prière, de l'Église. Nous avons la puissance du Saint-Esprit. Pour finir, comme implication que qu'on peut trouver dans ce texte, c'est considérons les richesses infinies qui nous attendent dans le ciel. Jésus est venu pour nous donner les richesses du ciel. Monsieur l'homme le plus riche du monde ne se souciait pas de cette terre. Il vivait sur cette terre en sachant que cette terre est ruinée par le péché. Mais Dieu recommence tout et nous amène maintenant dans des richesses impérissables. Et la plus excellente des richesses, c'est que nous serons réconciliés avec Dieu. Nous serons enfin dans sa présence. Souvent quand je pense à la présence de Dieu, souvent je me dis, est-ce que je peux me tenir vraiment dans la présence de Dieu? Par le Saint-Esprit, parce que Dieu va nous transformer et nous serons pleinement remplis. Et comme dit l'Apocalypse, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de douleurs, il n'y aura que la joie dans la présence de Dieu. Comme j'ai vu tout à l'heure, je finis par cette phrase. Ne crains point, petit troupeau. Dieu a décidé de vous donner le royaume de Dieu. On peut vivre sur cette terre de manière désintéressée, pour servir le Seigneur pleinement avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, sachant que le vrai trésor se trouve dans les cieux. Je prie pour nous. Notre Dieu, notre Père, merci pour vos promesses, merci pour ce don démesuré, incommensurable. Mon Père, je te supplie pour moi-même et pour mes sœurs, pour mes frères ici, que tu nous fortifies par ton Saint-Esprit dans notre homme intérieur, que tu nous ouvres les yeux spirituels afin que nous comprenions l'amour de Christ. Père, que tu nous ouvres les yeux spirituels afin que nous comprenions ton œuvre, tes promesses en Jésus-Christ. Que nous soyons pleinement conscients comme de cette terre, que nous soyons pleinement conscients de la réalité de l'avènement de Dieu. Ça va vraiment arriver un jour, on va vraiment se trouver ensemble. Et ça peut arriver à tout le monde. Et je te supplie que tu ouvres nos yeux, que tu nous fortifies, que tu nous bénisses par ta parole. Père, je te supplie, pour ceux qui ne te connaissent pas encore et qui entendent ce message, Père, je te supplie. Ô Dieu, toi qui reprends les bras, qui appelle à toi tous ceux qui veulent venir. Que tu parles, celui qui rate ton appel pour l'instant, qui s'attache à cette terre, qui va partir, comme beaucoup d'argent qu'on va de toute façon laisser. Là, je te supplie que tu parles, que tu convertisses le cœur à Jésus-Christ. Bénis-nous par ta parole, on te prie, au nom de Jésus ton Fils. Amen. Donc pour notre moment de Sainte-Cène, je vais lire dans 1 Corinthiens versets 23 à 25. Donc pourquoi nous faisons la Sainte-Cène, c'est Jésus qui institue ce repas pour que nous nous souvenions de son sacrifice. 1 Corinthiens 3, 23 à 26. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit ceci, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Comme on voyait la semaine passée dans Éphésiens 2, l'apôtre Paul disait en gros, souvenez-vous quand Jésus, vous étiez, avant Jésus, vous étiez sans Dieu, sans droit au royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est un royaume où il n'y a pas de péché. Il n'y a pas d'orgueil, pas de calomniateur, pas d'envieux, pas de querelleur, en gros pas de pécheur. Donc aucun de nous ne pourrait accéder au royaume des cieux. Mais maintenant, en Jésus, parce qu'il a pris notre sanction, quand il mourait sur la croix, il mourait pour les pécheurs. Et maintenant que Dieu a puni les péchés, il ne peut plus nous condamner si nous sommes en Christ. Donc quand nous prenons le pain, le genou, souvent, le sacrifice de Jésus, pour nous donner la vie, pour nous donner accès, pour être co-héritier avec Dieu. Donc si nous avons mis notre foi en Jésus, je vais nous inviter à venir pendant le chant, prendre les éléments. Et on va s'attendre pour prendre ensemble. Mais pour ceux qui n'ont pas encore mis leur foi en Jésus pour le pardon de leurs péchés, on nous invite aussi à prendre ce temps pour réfléchir et pour parler au Seigneur, pour parler à Jésus, comme vous parleriez à un homme. Si vous le reconnaissez, dites-lui, Seigneur, je veux te connaître, je reconnais que je suis pécheur, je veux que tu sois mon sauveur et mon Seigneur. Dieu est fidèle, il entend ces prières-là, et il honore ceux qui viennent à lui humblement. Donc je vais nous inviter à prendre les éléments pendant le chant. Excusez-moi, je vais faire le chant. Je vous invite à nous lever pour le chant.
Tout la vie fait Dieu.
Seigneur Jésus, dans la nuit où il a été livré, a pris du pain. Après avoir rompu et après avoir rendu grâce, il dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Prenons ensemble le pain. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Faites ici en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
Maintenant à sa fin, on en est à la vie de l'Église maintenant, donc des choses qui passent bien au-delà du dimanche matin. Et donc je ne résiste pas de rappeler encore et encore